Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomad Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimandjaro, la traversée de Bali en scooter, ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente? Alors contactez l'équipe de Nomad Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomad Aventure. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soazic Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Que mettre en place au sein de son couple lorsque l'un vit une période de chômage? C'est la question que nous a posée Marie-Liès, dont le mari a perdu son emploi suite à un licenciement économique. Marie-Liès redoute les mois à venir et ne veut pas revivre les difficultés rencontrées lors de la précédente période de chômage d'Alban. Cette fois-ci, ils souhaitent tous les deux prendre les devants pour mettre en place une organisation, une communication, une vie commune à la fois sereine et fructueuse. Après un échange avec Marie-Liès, nous lui proposons des solutions concrètes pour que leur couple puisse faire équipe et vivre au mieux cette période angoissante. Belle écoute à vous. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise.
Bonjour Soazic, ravie de te retrouver au micro.
Et ben c'est un plaisir partagé. Et bonjour Marie-Liès.
Bonjour Soazic, bonjour Marie-Lise.
Bienvenue sur notre micro et d'ores et déjà merci de la confiance que tu nous témoignes en faisant passer cette petite heure avec nous pour discuter de ce que vous êtes en train de traverser dans votre couple. Donc on est vraiment ravis de t'accueillir. Je pense que nos éditeurs aussi. Alors est-ce que tu veux bien te présenter pour que l'on sache avec qui nous allons passer cet épisode?
Alors, moi, je suis Marie-Liès, j'ai 38 ans maintenant. Je suis mariée avec Alban depuis bientôt 15 ans. Et on a 4 enfants, tous les deux, un garçon et 3 filles, de 13 à 7 ans et demi. Et on habite Brest.
Ok, super. Est-ce que tu veux bien nous dresser un peu un portrait de votre couple? Alors tu nous as dit que vous étiez mariés depuis 15 ans, mais un peu votre rencontre et puis quel a été un peu votre parcours?
Alors nous, on s'est rencontrés à un mariage de copains en 2006, où on était témoins tous les deux, lui du marié, moi de la mariée. On s'est rencontrés comme ça. Ça a été un coup de foudre tous les deux. On s'est mis ensemble assez vite après ce mariage. Et on s'est mariés 2 ans et demi après, donc ça a été quand même assez rapide. Qui on est comme couple? Alors, je dirais qu'on est un couple un peu explosif chez nous. On a chacun notre caractère qui fait que ça peut monter dans les tours quand même assez vite. On est passé par plusieurs crises déjà pendant ces 15 ans. On a pu être accompagné par une conseillère conjugale, c'était en 2013, qui nous a bien aidés. Et puis par la suite, on a découvert les carnets SILD. Alors c'était tout début, où tu étais encore à Tahiti, Swazik. Donc c'était vraiment le début. Et on s'est dit que c'était la bonne chose pour nous, pour nous aider à nous parler sans justement trop monter dans les tours, que ça se passe bien. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé aussi, et ça nous a vraiment appris à nous parler comme on s'était rarement parlé d'ailleurs. Et puis par la suite, alors en ce moment, on est dans une période un peu compliquée puisque Alban est au chômage depuis un petit mois. Suite à un licenciement économique, donc chômage pas du tout prévu. On a déjà vécu cette période de chômage il y a 2 ans et demi, où là, il avait quitté une entreprise pour une autre dans laquelle ça s'est pas bien passé du tout. Et donc suite à cette expérience, il a été au chômage, et finalement un chômage qui a duré pendant 2 ans. Donc ça a été une longue période. Et pendant sa période de chômage, moi j'ai décidé de me reconvertir parce que je travaillais en RH. Métier que j'aime énormément, mais qui n'était plus du tout compatible avec mes 4 enfants qui étaient assez proches les uns des autres, et c'était la période vraiment du tunnel où ils sont tous petits et où c'est vraiment compliqué. Et Alban, lui, a un métier de commercial, manager commercial, et donc du coup, il est quand même très absent la semaine. Donc voilà, une vie un peu... une vie de couple un peu entre guillemets, entre parenthèses la semaine et les retrouvailles le week-end pour un redépart de la semaine suivante. Donc voilà, une réadaptation perpétuelle. Et donc moi, je me suis reconvertie donc en 2020 et je suis auto-entrepreneur maintenant, donc depuis 3 ans, en RH toujours et en communication digitale. J'ai repris une formation pendant le Covid qui m'a permis de créer ma boîte dans le domaine vraiment du social media management, donc tout ce qui est communication pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Et j'ai gardé quand même une partie RH qui me plaît beaucoup, sur toute la partie recrutement, préparation aux entretiens de recrutement, etc., que je garde aussi en freelance. Donc cette première période de chômage qu'on a vécue, moi j'étais en reconversion, lui était au chômage, ça a été 2 ans vraiment costaud. Et donc là, le fait de se retrouver à nouveau au chômage pour lui depuis 1 mois, on a eu 3 semaines pour s'y préparer, mais c'était quand même très rapide. On sait à peu près ce qu'on veut reproduire et surtout pas reproduire de ce qui s'est passé pendant 2 ans. Mais ça reste, pour un couple, ça reste quelque chose d'assez complexe, et surtout surtout pour un homme pour lequel le boulot, c'est quand même quelque chose aussi de très social, c'est aussi une preuve sociale, une preuve de virilité quelque part, et le fait d'être sans activité, ça peut être compliqué.
J'allais justement te demander la place pour chacun de vous du travail dans votre vie.
Alors, je vais commencer pour moi. Alors, moi, c'est pas ma priorité aujourd'hui, mais j'en ai besoin pour vraiment être épanouie et puis me dire que ma journée a servi à quelque chose. Aujourd'hui, mes enfants sont tous à l'école, donc la journée, j'ai personne à la maison. J'ai besoin d'avoir une activité intellectuelle qui me permette de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avancer sur des projets. Ça, c'est vraiment des choses qui me motivent et qui me font du bien. Après, j'ai la chance aujourd'hui de travailler vraiment sur les heures d'école. Donc, j'ai vraiment ma journée de boulot et puis ma deuxième journée ensuite, ma première le matin avec les enfants, puis la suite le soir quand ils rentrent. Mais c'est vrai que cette parenthèse de boulot me permet vraiment de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose aussi pour les autres et de m'épanouir vraiment aujourd'hui dans ce que je fais. Donc ça, c'est une place importante. Pour Alban, ça a une place importante aussi parce que c'est aussi ce qui permet de faire vivre la famille. Donc là-dessus, c'est important. C'est quelqu'un d'assez ambitieux, donc il aime bien aussi pouvoir évoluer, montrer qu'il est capable de faire ce qu'il fait, d'évoluer au fur et à mesure du temps dans les différentes entreprises dans lesquelles il a pu passer. Et de plus en plus, je me rends compte qu'il a besoin d'un boulot dans lequel il y a du sens, ce qui n'avait pas forcément ce qui n'était pas forcément une priorité il y a quelques années, aujourd'hui le devient. Ce qui fait aussi que la recherche du boulot peut être plus longue ou peut être plus difficile en tout cas. Voilà, et cette envie, ouais, de pouvoir évoluer, de pouvoir aujourd'hui encadrer des équipes et de pouvoir être reconnu aussi dans ce qu'il fait. Il a, c'est quelqu'un qui a énormément besoin de reconnaissance et de paroles valorisantes, etc. Donc le fait aussi d'avoir un job qui le mette sur cette route-là est vraiment important pour lui.
Oui, donc ce qui fait ça fait une liste de critères non négligeables, effectivement, pour le nouveau poste pour lequel il va se mettre en recherche. Est-ce que tu peux nous dire ce qui avait été le plus compliqué à gérer pendant cette première période de chômage?
Alors, ce qui a été le plus dur à gérer pendant cette première période de chômage, c'est que pendant nos 10 premières années de mariage, il était jamais à la maison la semaine. Et donc là, se retrouver à deux, H24, 7 jours sur 7, ça a été le plus dur, finalement. Bah, parce que la vie de la maison la semaine, il la connaissait assez peu. Parce que avoir les enfants qui rentrent le soir surexcités ou crevés ou qui chouinent pour la moindre chose... ça fait du bruit et donc ça a été difficile aussi pour lui à gérer. Donc ça a été vraiment le fait de revivre à 6 en fait chez nous, ce qui n'était pas arrivé aussi longtemps.
Et est-ce qu'il y a cette même appréhension là aujourd'hui quand il t'a annoncé cette période de chômage? Est-ce que c'est vraiment une image qui t'est revenue en disant, oh là, il va être là 24/24, comment on va gérer?
Oui, c'est revenu tout de suite. Et puis moi je travaille à la maison, donc le fait de l'avoir aussi là tous les jours, c'est une appréhension aussi, parce que moi je fais ma vie la journée quand il y a personne, et là il est là, donc c'est un peu différent quand même.
Ouais, tu sens que dans l'organisation de tes journées, tu te sens obligé du coup de le prendre en considération, en fait, te dire bon, je vais pas aller déjeuner soit avec une amie, soit toute seule, il faut que je prépare un déjeuner, que ce soit bien parce qu'il sera là.
Alors oui et non, autant ça c'est des choses que c'est comme ça que j'ai réagi la première fois, il y a 2 ans et demi, où je me suis dit en fait je peux pas partir, il faut que je sois là parce que lui est pas bien, parce que je peux pas le laisser tout seul, parce que voilà. Donc ça, autant la première fois oui, autant cette fois-là pas du tout. Alors je pense que nous deux au sein de notre couple on va mieux aussi qu'à l'époque, donc je pense que c'est aussi plus facile. On est dans une ville dans laquelle on a des super copains, dans laquelle on est vraiment heureux, donc ce qui change aussi la donne par rapport à la période précédente où c'était aussi un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc là, non, là, au contraire, je m'interdis pas du tout d'aller déjeuner avec une copine ou d'aller boire un verre le soir avec une autre copine, parce qu'en fait, il a été là toute la journée et que je me dis que je peux pas sortir, pas du tout. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on avait réussi à mettre en place, enfin, dont on a parlé là juste avant ce début de période de chômage, en disant en fait, moi, ma vie, elle est organisée de telle manière aujourd'hui du fait de bosser à la maison. Le fait que tu sois là va pas tout mettre par terre. Au contraire, et il faut pas parce que ce qui a été difficile pour nous à l'époque, c'était ça, c'était de se retrouver beaucoup à deux et de se sentir obligé de faire beaucoup de choses l'un pour l'autre. Et je pense surtout moi, je me suis vraiment mis entre parenthèses à ce moment-là aussi parce qu'il était mal.
Comment il va aujourd'hui?
Alors il va mieux quand même parce qu'après ces 2 ans de chômage, donc il a trouvé une entreprise. Voilà, pour laquelle il a travaillé pendant 2 ans et demi, qui lui a vraiment redonné confiance en lui, qui lui a vraiment permis de se rendre compte que c'était pas un grand nul, qu'il savait faire des choses, qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Donc il ressort quand même de ce 2 ans et demi avec cette confiance en lui qui a été vraiment mise en valeur et qui l'aide vraiment aujourd'hui dans sa recherche de boulot aussi.
Et comment il a pris la nouvelle de ce chômage? Ça a été vraiment pour lui, tu vois, c'est difficile, compliqué. Il est plutôt positif. Il se dit, tiens, c'est une nouvelle chance. Il est dans quel état d'esprit?
Ça a été, oui, ça a été quand même une bonne claque, ça c'est sûr. Même si, voilà, il s'y attendait quand même un petit peu. Il y avait quand même des signes qui montraient que l'entreprise n'était pas forcément au top et que, voilà, donc il sentait bien que ça pouvait lui tomber dessus. Après, honnêtement, il l'a pris de manière assez positive, ce qui m'a étonnée, parce que c'est pas du tout un positif à la base, du tout. Finalement, il l'a plutôt bien pris, et je pense qu'il l'a plutôt bien pris aussi parce que sa confiance en lui était vraiment revenue, parce que le départ s'est bien passé de son entreprise, parce que les personnes pour qui il travaille lui ont donné aussi des contacts de personnes à Brest qui pouvaient contacter de leur part, parce que ben, voilà, il y a aussi vraiment cette aide dans le dans ce départ. Il s'est pas senti mis complètement de côté, et ça, forcément, ça l'a aidé aussi à le voir de manière positive. Et il a eu des rendez-vous assez vite derrière, donc mine de rien, voilà, pour l'instant, ça donne absolument rien pour l'instant, mais voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place grâce aussi à l'aide aussi bien de son entreprise que de nos habitants.
Et est-ce qu'il y a une, bon, un peu à cette, tu vois, à cette crainte, à cette appréhension de vous retrouver tous les deux 24 heures sur 24 à la maison pendant une période plus ou moins longue? Est-ce que ça ajoute un peu une appréhension sur le côté financier?
Alors oui, forcément oui. Parce que le chômage, c'est quand même pas l'extase. Et puis à Alban, pour le coup, il y a aussi il y a beaucoup de choses qui remontent, parce que quand il était petit, il a eu, il a eu une vie de famille, une enfance heureuse, mais avec beaucoup de manque au niveau financier justement. Et donc ça, c'est quelque chose qui le panique vraiment. Alors là, on sait, le chômage, ça dure quelque temps, donc on n'est pas à la rue demain non plus, mais forcément, oui, c'est quelque chose qui le panique beaucoup, et cette peur de manquer, ça, il l'a toujours eu et il l'a toujours maintenant. Et donc oui, ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à gérer, même si voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de, on s'en sortira avec ce qu'il y a, comme on en est toujours sorti. Mais bon, forcément, faut faire des concessions sur d'autres choses aussi, quoi.
Ouais. Et est-ce qu'il y a une de ta part, parce que c'est donc un nouveau travail qui va falloir trouver, un nouveau poste, est-ce qu'il y a une appréhension de ça? Tu vas peut-être se dire qu'il va falloir déménager, qu'il va falloir faire de nouvelles concessions. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu...
Alors, pour l'instant, non, parce que le but, c'est vraiment de rester à Brest. On est à Brest que depuis un an et demi. On est vraiment arrivé ici pour son job précédent. Après, on est tellement bien ici que le but, c'est vraiment de pouvoir rester. On a beaucoup, beaucoup déménagé, nous, dans notre vie pour suivre son boulot, parce que quelque part, un peu comme un militaire, un commercial, là, ça peut aussi bouger beaucoup, donc on a beaucoup déménagé. Le but, c'est quand même de pouvoir rester à Brest et de trouver ici. Donc, pour l'instant, j'ai pas cette appréhension-là. Si dans un an et demi, on en est toujours au même point, là, on se posera peut-être d'autres questions et on verra les choses autrement et on se dira qu'il faudra bouger. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas le but.
Une dernière question. Est-ce que tu peux me dire la façon dont vous fonctionnez tous les deux dans votre couple? Plus précisément, est-ce que vous êtes du style à faire équipe quand vous êtes dans une situation comme ça? Que ce soit dans une situation comme ça avec un objectif précis, ou alors, par exemple, même pour faire fonctionner la maison, pour l'éducation des enfants. Est-ce que c'est un mécanisme, enfin, est-ce que vous le vivez comme ça? Ça m'intéresse notamment, tu vois, dans cette recherche de travail. Est-ce que toi, tu l'aides? Est-ce que tu donnes ton avis? Quelle place tu prends là-dedans? Donc, en fait, c'est deux questions en une.
Alors, la première question, oui, on fait vraiment équipe, oui, pour beaucoup de choses dans la maison. Ça a toujours été le cas, et je pense que ça l'est même encore plus maintenant. Maintenant où les enfants sont plus grands, lui, c'était pas un amoureux des bébés, et c'était pas sa tasse de thé. Aujourd'hui qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils deviennent ados, c'est plus intéressant quelque part. Et donc il est plus présent aussi pour les enfants là-dessus. Donc oui, on fait vraiment équipe là-dessus, et on se complète assez bien quand il y en a un qui pète un câble ou qui part en vrille pour x ou y raison, l'autre vient souvent prendre le relais derrière et fait la balance. Donc ça, c'est vrai que de manière générale, on fonctionne quand même comme ça. Par rapport à ses recherches de boulot, alors je vais pas du tout chercher des offres pour lui ou pas, ça non. Je vais l'aider après dans la préparation d'un entretien ou pour refaire son CV. Je vais l'aider, il va me faire le débrief après de ses entretiens, etc. Je vais être plus en tant que coach quelque part. Alors, parce que ça a été mon métier, oui, et en plus parce que j'aime ça, et qui me pose souvent la question. Il vient vraiment me chercher aussi pour ça. Après, c'est vrai que je m'immisce pas du tout dans sa recherche. Je lui dis pas, tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Alors, ce qu'il peut, il peut me le reprocher parfois, de me dire, ah ben, tiens, tu pourrais regarder aussi si tu vois des trucs. Mais bon, en fait, ça, il le fait bien. Voilà. Après, on discute des fiches de poste qu'on voit et puis en termes aussi d'horaire de boulot, de est-ce qu'il y aura des déplacements, pas de déplacements, est-ce que ça forcément. Hein. on en discute et puis on voit s'il va plus loin.
Quel serait votre plus gros point de alors pas forcément de discorde, mais de d'appréhension sur cette période de chômage?
Que ça dure. Ça, c'est le... Moi, personnellement, ça me terrifie. Quand il m'a dit, ça, en fait, c'est, ça y est, c'est fini, je suis au chômage, je me suis revue sur les 2 ans qu'on avait vécu comme ça avant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment terrifiée au départ. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. On peut pas revivre 2 ans comme ça. Ça a été trop dur, ça a été trop long. Moi, j'ai pas envie de tout reporter sur mes épaules. J'ai pas envie de... J'aurais pas la force pour revivre ces 2 années-là. En tout cas, pas comme on les a vécues, ça, c'est sûr. Donc ça a été la première des choses, c'est vraiment la longueur. De se dire, mais pourvu que ça aille vite, 6 mois, ok, mais pas plus long, quoi. Parce que ça devient compliqué. Puis c'est vraiment les montagnes russes perpétuellement. Un entretien qui se passe bien, puis finalement, il n'y a pas de... Finalement, ça marche pas. Et puis, en fait, il y a un trou avant d'avoir d'autres entretiens. Donc, les montagnes russes, comme ça, ouais, non, ça, j'ai pas du tout envie de revivre ça. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est vraiment le temps.
Là où on peut peut-être t'aider aujourd'hui, où Marie-Lise peut te donner des pistes, c'est en fait comment réussir à gérer d'une façon relativement équilibrée ce temps de chômage, comment mettre en place une bonne communication, comment vous, justement, plutôt que de vous user, réussir à faire équipe chaque jour, jour après jour, pour vivre mieux cette situation. Marie-Lise, en fait, elle est venue vers nous en me demandant s'il y avait un rendez-vous Save Your Love Date spécial sur le chômage. Donc malheureusement, il n'y en a pas et c'était pas la première à me poser cette question. Donc je pense que si tu peux avoir ça, tu vois, en tête, en disant, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont prendre des notes et s'ils vivent cette situation où ils sont un jour, ils sont amenés à la vivre ou ils sont des amis qui la vivent, eh ben tu vois qu'ils aient quelques questions, quelques points importants desquels il faut qu'ils puissent parler en couple au moment où la situation arrive, au jour du chômage, mais aussi enfin, régulièrement dans cette période de chômage, parce qu'on dit souvent il ne suffit pas d'en discuter au début, un mois après, déjà la situation peut être différente, ce qu'on ressent, ça peut être vraiment différent, ça évolue, tu le dis très bien, en plus le temps, je ne joue pas dans ces cas-là en notre faveur, donc voilà, si tu peux nous donner un peu ces pistes de réflexion, ces sujets que toi tu penses très importants à aborder sereinement dans un couple pour vivre au mieux, en tout cas cette période de chômage.
Merci beaucoup pour ton témoignage qui est super clair. Moi, de prime abord, c'est juste ça, je suis pas hyper inquiète pour votre couple. Mais juste parce que, en fait, je vous sens solide et en même temps, il y a toutes ces ressources que vous avez gagnées par rapport à la première fois. Mais en fait, ce que je sens plutôt, c'est comme si vous étiez outillés, mais il y a toujours une espèce de gros bagage émotionnel autour de cette première expérience. Donc, ce que je peux vous inviter à vous et à tous les autres qui peuvent vivre ça, c'est déjà de pouvoir évacuer tout ça, parce qu'en fait, là, c'est comme si, quand je t'écoute, tu vivais 2 événements. Il y a l'événement actuel du chômage, et en même temps, tu revis toutes ces angoisses et ces craintes par rapport au premier événement d'il y a quelques années. Donc, en fait, qu'est-ce qui est réellement dans le présent, là? En fait, il y a un retour émotionnel, mais de quelque chose qui s'est passé il y a un moment. Donc, je pense que déjà, c'est le premier important, c'est de pouvoir évacuer autour de toute cette première expérience, de pouvoir dire, là, vraiment, en fait, je suis inquiète, mais pas tant pour cet événement-là, mais parce que ça me remonte tout ce qu'on a pu vivre là. Tu sais, moi, je fais un parallèle aussi avec des personnes que je vois qui sont très inquiets à l'idée de revoir un autre bébé quand le premier ou le deuxième a été très difficile ou j'en sais rien, il y a eu un RGO, des trucs hyper complexes et ils sont paniqués rien qu'à l'idée d'avoir ce deuxième bébé, comment ils vont faire. Bah, ça me fait un peu penser aussi à ça. Et c'est bien pouvoir dissocier les 2 événements parce que ça, intellectuellement, je trouve que tu le perçois très bien, tu le dis spontanément, c'est pas du tout la même situation. Là, il est beaucoup plus confiant, il est beaucoup plus sûr de lui, on a un cercle amical et même professionnel dans ses contacts qui est différent, donc c'est pas la même situation et il faut pas les superposer. Parce que si vous les superposez, il y aura des émotions qui ne sont pas adaptées, qui vont s'imbriquer ici. Donc, pouvoir faire le point, que ce soit pour toi ou pour ceux qui nous écoutent sur les situations passées, à quoi ça vous fait écho, qu'est-ce que vous avez appris de la première expérience, qu'est-ce qui vous a fait peur à ce moment-là, qu'est-ce qui a été très difficile à vivre, sur quoi vous êtes fiers d'avoir réagi. Enfin, vraiment pouvoir faire un débriefing à la CILD, comme un petit entretien, voilà, où on fait le point sur comment on a vécu cette situation, qu'est-ce qui a été compliqué pour nous, et voilà. Et pouvoir se dire aussi, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Avec quoi je viens? Avec quoi tu viens? Sur quoi est-ce que je me sens plus forte? Sur quoi est-ce que tu te sens plus fort? Quelles compétences tu penses que peut-être t'as pas encore? Mais pouvoir vraiment débriefer sur ça et dissocier ces 2 événements. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc là, ça, c'est la première étape que je conseille. Après, la deuxième étape, c'est vraiment cette question du rythme. Là, tu as pu le dire, hein, c'est pas facile de vivre à 6. Je pense j'ai plusieurs patients pour qui ça arrive, ou aussi même parfois dans des périodes, pas forcément de chômage, mais de longues périodes d'arrêt maladie, et avec l'autre qui travaille à la maison comme toi et qui se retrouve les deux à la maison. Et avec un peu cette sensation de bah, « je sais pas où est ma place, parce que bah, c'est pas ma place, normalement je suis censée être au travail ». Et donc ça, ça se co-construit aussi comme un espace de travail, où là, la maison, on peut la percevoir comme un bureau, et se dire bah, de quoi t'as besoin pour bien travailler, pour faire tes recherches, de quoi moi j'ai besoin pour continuer de faire mon travail, et ça, que ce soit un point régulier qui puisse être fait aussi. L'autre question par rapport à la vie de famille, parce que forcément, vu qu'il y a plus de présence, mais aussi plus de disponibilité, c'est quelle place tu vas avoir là en tant que père, en tant qu'époux, dans la famille, du fait que tu aies plus de temps. On peut le voir aussi bien, moi bon, je le vois plus souvent quand c'est des femmes, par exemple, qui sont en arrêt maladie ou en période de chômage, elles vont se réinvestir dans les corvées ménagères ou autres, et au final, elles n'ont pas le temps de chercher ou de se reposer si elles sont malades, et donc c'est pas du tout la période adaptée. Et en même temps, il y a comme si en fait, il y avait un besoin de se justifier, de dire bah, « je suis utile, même si je travaille pas ». Donc, de pouvoir peut-être aussi parler autour de ce sentiment d'utilité. Est-ce que tu as besoin, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou non? Est-ce que, bah, forcément, si tu as plus de temps, tu vas peut-être davantage être dans la famille, mais c'est quoi les limites? Parce qu'aussi, l'autre, spontanément, on le voit là où on a l'impression qu'il fait rien, et on se dit, bah, quand même, il pourrait faire ça, il pourrait m'aider. Et de pouvoir aussi revenir régulièrement sur ça, se dire, peut-être faire un point tous les 15 jours, j'en sais rien, bah, là, tu te sens comment par rapport à l'implication de la famille? Tu as des petites tâches peut-être en plus à faire que tu n'avais pas habituellement, est-ce que c'est adapté par rapport à ton rythme de recherche de travail? Est-ce que ça te convient, ça te convient pas? Est-ce qu'on peut faire plus ou est-ce qu'on peut changer? Et ça, c'est à évoquer aussi régulièrement pour pouvoir bien avoir en tête aussi que bah, la personne, elle est dans une recherche de travail et que c'est pas forcément évident. Il y a tout un travail que tu as dit, il y a à la fois le travail enfin, purement de rechercher un travail, faire des contacts, mais il y a aussi tout un travail, je dirais, psychologique, de comment je garde une bonne estime de moi, comment je me sens utile, comment je me sens bien. Et ça, ça prend du temps aussi. Ça passe aussi par des activités annexes. Je pense, par exemple, là, j'ai eu un retour d'un patient, il me dit, là, il est au chômage. En fait, j'ai l'impression que c'est vide. Enfin, forcément, je suis plus investie auprès de mes enfants, je les vois plus, c'est chouette, mais il dit, moi, ce que j'aimerais, là, ça serait avoir une passion. Parce qu'il me dit, en fait, si j'avais une passion, bah, je saurais quoi faire, occuper mon temps et je me sentirais utile dans cette passion, dans cette activité. Et peut-être c'est aussi pouvoir inviter l'autre à dire, bah, en tout cas, je pense que si pour te sentir bien, pour te sentir toujours, parce que tu as beaucoup parlé de la question de la reconnaissance, quelle activité il pourrait faire aussi pour continuer de se sentir reconnu et valorisé? Parce que peut-être que tu peux lui dire que toi, tu pourras pas porter ça, en tout cas. C'est pas ta place de prendre tout ce temps pour le valoriser, pour lui dire, bah ça va aller, t'inquiète pas. Bah forcément, l'autre, il est là pour soutenir. Mais tu peux pas tout porter. C'est pas toi qui es responsable. On en parle beaucoup avec Sozic dans le livre. Tu n'es pas responsable de son bonheur et de son épanouissement. Tu es là pour l'aider à trouver son épanouissement. Et c'est pas la même chose. Donc ça, c'est important à avoir en tête, je pense. Et donc, c'est pouvoir que lui puisse se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Bon, là, il y en a beaucoup, hein, la plupart, c'est ils vont faire plus de sport, enfin, en tout cas dans ce que j'observe. Déjà, même d'un point de vue biochimique, ça stimule pas mal et pour la valorisation, mais il y a aussi bah, les changements corporels qui sont valorisants, qui valorisent l'estime de soi. Mais ça peut être d'autres choses, des activités que peut-être il a toujours voulu faire ou du bricolage à la maison qu'il aime faire et qui le stimule. C'est valorisant aussi de voir, de rentrer, que les enfants disent « Ah, bah, c'est chouette, les volets, ils sont repeints, c'est sympa cette couleur. » Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être valorisantes, mais qui puissent aussi prendre du plaisir et quelque chose qui puisse faire qu'ils se sentent utiles dans la maison ou dans la vie, en fait, au sens large. On parlait des valeurs, mais qui sont utiles pour la société. Il y en a aussi, parfois, ils s'investissent dans des assos ou des petites choses qui prennent pas trop de... Enfin, qui monopolisent pas tout le temps. Et ce que je peux observer aussi, je pense qu'il faut faire attention, c'est peut-être plus à voir, lui, comment il peut faire pour gérer le stress. Mais j'en vois aussi certains, ils vont pas s'autoriser à faire des choses sympas ou à se dire, bah là, je vais partir en déplacement avec un copain pour 3 jours à la montagne. Bah non, si je suis rappelée, si j'ai un entretien, et qui s'autorisent plus à rien faire. Et ça crée du stress qui augmente aussi avec le stress sur le couple, parce que ça, qui s'autorise à plus rien faire, par exemple. Ils vont pas s'autoriser à prendre du temps libre. L'autre comprend pas, dit, bah, t'es libre, tu pourrais y aller. Ou... Donc, peut-être pouvoir parler de ça, de... Comment il pense gérer peut-être son stress, sa disponibilité? Comment est-ce que ça l'occupe? Est-ce qu'il se sent... Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça, de s'autoriser à faire d'autres choses. Et peut-être que ça peut être un sujet aussi de discussion. Est-ce que, par exemple, il y en a, ils ont besoin de se dire, bah là, je suis au chômage, mais je me... Parce qu'en fait, c'est... Quand, surtout quand le chômage est très long, on n'a jamais vraiment de vacances, en fait. C'est quoi? Est-ce qu'on se dit, bah là, par exemple, là, je m'y mets à fond, et à cette période, bah oui, ce sera les vacances scolaires où on part en vacances. Je pourrais décrocher aussi un peu des recherches, je serais forcément en veille, mais je peux m'autoriser à me libérer, à me créer un espace. Et peut-être pouvoir redire à l'autre, bah, qu'il a le droit aussi d'avoir un peu cet espace. Parce qu'on peut pas être en hyper-vigilance constamment. C'est pas confortable, ni pour l'individu, ni pour le couple. Donc voilà, peut-être voir par rapport à ça. Et je me dis aussi un peu tourner pour voir le versant positif, voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, voir se dire bah qu'est-ce que ça va me permettre ça, quel bilan là je fais aujourd'hui de ma carrière, pouvoir échanger à deux, je trouve que ça peut être sympa aussi parce qu'on voit comment l'autre grandit, comment il évolue, et c'est toujours plaisant d'échanger sur ça. Mais pouvoir se dire bah qu'est-ce que ça va te permettre au fait de faire aussi d'avoir ce temps de latence, bah peut-être tu vas pouvoir te rapprocher de tes enfants, peut-être tu vas pouvoir aussi retrouver un autre emploi qui te plaît davantage. Enfin d'en être arrivé là, ça nous a permis aussi de nous rendre compte bah que par exemple Brest c'est une ville qui nous plaît bien et qu'on se voit bien vivre là au bord de la mer, ça nous plaît, c'est chouette pour nous. Enfin voilà, de pouvoir aussi voir le côté positif de cet événement. Ce que je disais par rapport aux points réguliers à faire, hein, comme elle le disait. Soisic, je pense que c'est des choses qu'il faut revenir régulièrement parce que les besoins, le stress, le niveau d'inquiétude ou peut-être que même les perspectives de recherche vont évoluer. Donc, de pouvoir aussi se caler des temps. Et là, en plus, comme tu es à la maison, ce que je disais, de penser un peu comme une organisation de travail, pouvoir même vous caler des rendez-vous, en fait. Et que ce soit bien clair aussi pour lui que quand tu es au travail, bah, tu n'as pas envie d'être dérangé, mais vous pouvez vous caler des rendez-vous, même déjeuner ou des rendez-vous de temps de travail dans ton agenda pour travailler sur une demande d'emploi qu'il peut avoir ou tu peux le coacher un peu, mais que ce soit cadré. Parce que même pour lui, ce sera confortable parce qu'il aura la sensation d'être dans un contexte un peu pro et c'est clair. Et toi, ça va pas t'envahir. Voilà par rapport à ça et je trouvais ça hyper intéressant quand t'as parlé qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui remontaient et en fait je trouve que c'est rigolo parce qu'on prépare un sujet avec Soisic et il y a ce thème là mais la question de l'argent et comment aussi le chômage ça peut revenir questionner le rapport à l'argent et ça je pense que c'est une question s'il y avait un petit carnet cible autour du chômage je pense que cette question effectivement elle est nécessaire à être d'être abordée. Donc là, il l'évoque, mais peut-être qu'aussi ça peut être vu comme un versant positif, que c'est le moyen aussi de re-questionner ça pour qu'il puisse peut-être se libérer progressivement de cette question et de cette crainte par rapport à ça, de se dire après tout, nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants ils soient heureux, avec quoi ils sont heureux, de pouvoir peut-être se re-questionner sur ça, sur la place que peut avoir l'argent dans votre famille, comment elle contribue ou non à votre bonheur, l'argent, quelles sont les limites, enfin de pouvoir peut-être reposer les choses autour de tout ce rapport à l'argent et comment elle circule au sein de votre foyer. Donc ça, de manière générale, pour tous ceux qui peuvent nous écouter, je pense que c'est un thème qu'ils peuvent aborder. Et sur le fait que cela dure, enfin, je comprends, hein, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, ce que je veux dire, mais sur le fait que ça dure tout le temps, c'est un peu comme, enfin, il y en a beaucoup quand ils travaillent, quand j'écoute là des professeurs de méditation, ils disent ça, c'est qu'en fait, le meilleur moyen pour être pas trop sous stress, c'est toujours aussi pouvoir penser. Un jour après l'autre, en fait, si on pense déjà au fait, bah si ça dure 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On est déjà pris d'une angoisse et d'une anxiété énorme, alors qu'on sait même pas si ça va se passer et que concrètement là, on peut rien faire pour changer la chose, en fait. Donc c'est aussi comment se dire, bah quel pouvoir j'ai moi sur ça? Bah là, rien. Concrètement, à part la continuer de m'investir, de l'aider, je ne peux rien faire de plus pour que ça dure 6 mois ou 2 ans. Donc c'est aussi pouvoir dire bah là j'ai pas d'action, j'ai pas de prise sur ça. Donc c'est aussi pouvoir souffler, se dire de toute façon ça sert à rien là de se prendre la tête par rapport à ça, de ruminer parce que là j'ai pas de prise. Donc c'est facile à dire, hein, mais à faire c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que ça c'est un exercice au quotidien qu'on peut faire dans plein d'éléments de notre vie. Mais de pouvoir se poser 2 minutes, pouvoir se dire bah là concrètement qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le maximum? Bah non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en plus? Ok, bah ça on peut le faire. J'ai une prise sur ça. Pour le reste j'ai pas de prise. Donc c'est aussi comment faire confiance à la vie, à votre couple, et voilà, pouvoir vous appuyer sur ce en quoi vous croyez.
Merci Marie-Lise. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que c'est une période pour le couple où la communication, elle doit être, mais au taquet de chez taquet. Et pouvoir se dire qu'en fait, tout change tellement rapidement, et tu le disais très bien, Marie-Lise, cette histoire de montagne russe qu'il faut gérer, Et là, on sent bien que le couple qui va en fait le mieux s'en sortir, c'est le couple qui quotidiennement sera vraiment s'asseoir pour parler. Et même si je pense que ça change tellement vite, parce que il y a une semaine où on va trouver une annonce qui nous intéresse, une semaine où, comme disait Marie-Lise, on va partir en vacances, mais en fait, on va avoir cette angoisse de se dire mais mince, en fait, pendant une semaine, je vais décrocher, ça se trouve, je vais louper l'annonce. Donc, je pense que effectivement, c'est réussir à se donner rendez-vous très régulièrement pour savoir où chacun en est. Parce que là, on se met un peu dans la peau de celui qui est au chômage. Mais effectivement, toi, Marie-Lise, ta position, elle est tout aussi difficile à vivre. Donc, autant toi, en plus, peut-être que le risque avec toi, c'est comme tu as un peu cette étiquette, en tout cas cette formation de coach, c'est que tu te mettes beaucoup à son écoute et que l'inverse ne soit pas vrai. Et ça, je pense qu'il faut faire vraiment attention quand vous prenez du temps tous les deux, à ce que toi aussi, tu puisses exprimer ce que tu ressens. Parce que cette situation, elle n'est pas simple pour toi non plus. Ok, lui, par exemple, on a parlé du côté financier et de son rapport à l'argent, mais toi, tu as le tien aussi, tu as ton histoire là-dessus aussi. Même si c'est juste, enfin, et tu nous l'as dit au début, que son salaire permettait de faire vivre principalement la famille, tu as cette part toi aussi à prendre, et peut-être qu'aujourd'hui tu te sens plus investi d'une mission un peu plus grande parce que le chômage ne dure qu'un temps. Donc je pense que c'est vraiment important qu'il y ait cet équilibre quand vous parlez entre ce que lui exprime, ce qu'il dit, mais aussi sa position d'écoute et ce qu'il peut comprendre de ce qu'il vit. Alors vu que vous avez déjà été aidé, tu nous l'as dit, j'imagine que c'est des clés qu'on vous a donné, c'est quelque chose que vous avez appris dans votre communication, mais je sais que c'est des choses qu'on peut très vite oublier et on peut vite passer à autre chose, surtout quand on se sent au centre de la situation et que on a l'impression que voilà, on est la personne au chômage, donc on est la personne qui souffre, on est la personne qui doit retrouver quelque chose. Donc d'oublier un peu la position de l'autre pour qui tout paraît finalement beaucoup plus simple. Donc ça, je pense que c'est une vigilance que vous devez avoir en fait dans votre façon de communiquer, que ce soit, et ça tu nous le diras, peut-être que si lui, c'est peut-être pas sa spécialité de dire et toi comment tu vas, tu vas te demander des nouvelles, savoir comment tu vis la situation, ben c'est pas grave de pas être en plus dans cette attente de dire en fait bah il me demande jamais comment je vais, donc je lui dis pas, enfin je vais pas très bien, je l'exprime pas, jusqu'au jour où effectivement c'est exprimé mais pas du tout de la bonne façon. Donc de lui dire que toi t'as besoin qu'il s'intéresse aussi à ce que tu vis, et de le faire de toi-même au départ, et puis après, tu vois, progressivement, quand il pourra prendre modèle sur toi de la façon dont toi tu entres en communication avec lui, faire de même, mais en tout cas pas se braquer en se disant bah en fait comme il me demande jamais, juste je lui réponds pas, voilà, moi j'en parle à mes copines, bon bah c'est pas grave, et le jour où il s'intéressera, bah il sera pas déçu parce que il sera passé à côté de bien des choses. Marie-Lise, je sais pas si ce que tu peux ajouter, comment tu peux réagir à ce que je dis, je parle toujours sous ton contrôle évidemment,
mais je me demande à quoi ça peut faire écho chez toi en même temps. Du coup ça me fait sourire.
Non, je ne suis pas en analyse.
Non, mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Et en fait, c'est aussi, je trouve ça chouette de pouvoir le redire, mais par exemple, même dans la façon dont je travaille, quand on travaille en couple, c'est jamais l'idée d'être centré sur quelqu'un qui est symptomatique, mais c'est toujours cette question de manière globale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans la relation, qu'est-ce qui se passe dans la relation de couple. Et c'est bien de pouvoir le redire, effectivement.
Ouais. Et je pense que quelque chose peut-être que tu observes dans tes consultations, c'est qu'on est quand même dans une période, dans une génération où, et tu le disais Marie-Lise, que ton mari aujourd'hui dans son travail, il est notamment dans une recherche de sens. Donc il voudra plus prendre n'importe quel poste, il sait ce qu'il veut. Tu l'as dit que toi, t'avais fait une nouvelle formation pour réadapter le fait de pouvoir travailler à ton rythme familial et puis à tes envies. Je pense que ça se passe dans beaucoup de couples et c'est quelque chose vraiment, vraiment qui doit s'accompagner, ce changement de... Alors là, effectivement, je parle pour ma paroisse puisque c'est quelque chose qu'on est en train de connaître de vivre avec Arnaud. Et c'est quand c'est un sujet que tu n'as pas l'habitude d'aborder dans ton couple, non pas le travail, mais en tout cas, tout ce questionnement du changement, eh ben, t'as pas toujours les clés. Et il y a vraiment, je trouve, quelle est notre place? Quelle place on prend? Cette place, effectivement, je trouve qu'elle est pas toujours facile de coach un peu. Moi, je te connais, donc je peux t'aider, mais en même temps, bah, c'est un peu, c'est toi qui sais mieux ce que tu veux trouver, c'est toi qui as les rênes. Donc, je trouve que ce positionnement, effectivement, est pas toujours simple. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes, Marie-Lise, ou c'est quelque chose qui peut atteindre de plus en plus les couples, ces changements de vie professionnelle.
Si, bah, complètement. Et de toute façon, on le voit bien avec les modifications du travail. On fait plus toute sa carrière dans la même entreprise. Donc, c'est des questions qui reviennent beaucoup plus souvent. Et la question du sens aussi dans le travail est beaucoup plus questionnée qu'avant. Donc, il y a beaucoup plus de changements, de remaniements.
Marie-Lies, on a été très bavarde. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu retiens de ce que Marie-Lise a pu nous dire?
Alors, merci déjà pour toutes ces bonnes idées et pour toutes ces clés. Marie-Lise, effectivement, tu parlais du sport, par exemple. Alors, Alban est assez sportif déjà à la base. Effectivement, là, je pense qu'il double son temps de sport. Où il va tous les jours, il court beaucoup, ça lui fait du bien et ça lui permet aussi justement d'évacuer le stress ou l'anxiété qu'il peut avoir de sa recherche de boulot. Le fait de participer à des courses, quelque part, bah, ça le valorise aussi. Ça lui permet d'avoir des entraînements qui sont vraiment accompagnés. Il sait où il va, il a un objectif, il va aller à sa course, il va la terminer. Effectivement, c'est de la valorisation aussi. Donc ça c'est quelque chose de très important pour lui et qui continue. C'était une des choses qu'on avait remarqué aussi il y a quelque temps dans cette première période de chômage, c'est que il s'était remis au sport peu de temps avant et il s'est rendu compte effectivement que ça l'avait quand même beaucoup aidé. Alors là, je pense que c'est quadruplé en termes de temps par rapport à la dernière fois, mais parce qu'il sait que c'est son moyen aussi lui d'évacuer la pression, d'évacuer le stress. Quand il rentre, il se sent bien, donc ça détend aussi l'atmosphère à la maison quelque part. Donc ça, effectivement, je pense que c'est hyper important de pouvoir avoir au moins une passion ou quelque chose qui nous anime pendant le temps de chômage pour évacuer justement le trop-plein de stress ou d'anxiété et puis être fier de soi aussi, de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est important et ça, je retiens ça et là-dessus, c'est pareil quand il me dit « en fait, je pars courir à 18h », évidemment que ça me gave qu'il parte courir à 18h, mais en même temps, je sais que quand il va rentrer, il va être bien. Je suis pas sympa de dire ça parce qu'en général, il part courir à 6h du matin pour justement que ça empiète pas sur le reste de la famille, donc je suis pas sympa quand je dis qu'il part courir à 18h parce que c'est pas vrai.
Oui, mais c'est bien parce que tu nous donnes l'occasion de dire que pour ceux qui ça arrive, il faut oser aussi le dire bah en fait, tu vois, 18h, moi, si tu pouvais être là pour aider à la maison, est-ce que tu penses pas que tu peux y aller sur l'heure de midi alors que voilà, tout le monde est à la cantine et que moi-même bon, je déjeune rapidement donc ça ne me gêne pas. Savoir dire et pas être dans cette, tu vois, dans cette position où peut-être on peut se mettre. En fait, c'est lui qui est victime, c'est lui qui a une situation qui est pas facile, donc franchement, je m'écrase. Et je fais tout pour que juste il soit bien. Et si c'est d'aller courir à 18h qui lui fait du bien, qu'il le fasse. Moi, derrière, bon, je ramasse, mais enfin, c'est pas grave. Alors ça peut tenir, je pense, 15 jours, un mois, mais enfin, sur du moyen terme, c'est pas viable. Donc voilà, oser dire et effectivement, sur 24 heures, en tout cas sur 12, on peut peut-être réussir à trouver ce qui est plus adapté aux deux. Mais c'est là où la communication va être importante et oser aussi exprimer ce que soit. On ressent alors qu'on n'a pas l'impression d'être dans la place de celui qui vit quelque chose de difficile.
Non, c'est ça. Et puis ce que vous disiez aussi toutes les deux, de faire attention à pas s'oublier et de pas se dire effectivement comme l'autre, c'est l'autre qui vit le chômage, c'est difficile, c'est compliqué, il faut que je sois là, il faut que je porte, etc. Bien sûr qu'il faut qu'on soit là et qu'il faut qu'on porte quelque part, mais en fait on peut pas le faire au détriment de notre propre vie à nous, de nos propres émotions. Alors même si on attend, alors ça je pense c'est un truc typiquement féminin, mais d'attendre, d'avoir l'impression d'être un livre ouvert et que l'autre doit deviner ce qu'on ressent, doit deviner ce qu'on pense, doit deviner dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. Ça marche pas du tout. Donc effectivement, il faut le dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on avait appris aussi à l'époque. C'est que moi, j'avais l'impression qu'il voyait que j'en avais assez, que en fait, non, pas forcément, il ne le voyait pas. Et puis effectivement, quand il me posait la question, ben alors là, il en prenait pour son grade parce qu'il y avait tout sortait d'un coup. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors, merci du rappel quand même, parce que je pense que c'est important aussi pour moi de me rappeler que, en fait, il peut pas deviner tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, lui dire aussi qu'il faut qu'il me pose la question et que même s'il me la pose pas, que je lui dise aussi moi comment je me suis sentie aujourd'hui. Donc, ça c'est un rappel important aussi, je pense.
Merci beaucoup Marie-Lies, vraiment merci. Et c'est vrai que on se disait juste avant de commencer avec Marie-Lies que on était beaucoup sur le thème du travail dans les derniers épisodes, alors que c'est des des sujets qu'on avait très peu abordés. Bon, on a quand même pourtant 70 épisodes. Donc, merci à toi parce que c'est sûr que le sujet va rejoindre beaucoup, beaucoup de couples. Je vais dire, même si c'est pas votre cas, que vous avez écouté de cet épisode, c'est pas votre cas, vous avez forcément un couple d'amis ou un couple de proches autour de vous qui vit ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à leur dire d'écouter cet épisode. Et évidemment, après, si eux, ils vivent quelque chose de plus compliqué, ils peuvent aussi venir vers nous. Moi, ce que je veux retenir, c'est que c'était quand même un épisode très positif et que on peut se dire que il est possible de vivre une période de chômage en ayant les bonnes clés, une bonne communication, en regardant, en essayant de regarder au jour le jour, en faisant équipe, en réorganisant chacun un peu sa façon de faire. Ben on peut le vivre de façon positive et peut-être que déjà en posant ce regard sur cette situation qui nous attend, ça change déjà la façon dont on va le vivre. Bon, moi je suis toujours très positive. Me dire oui, bah, elle dit ça parce qu'elle n'a jamais connu ça. Mais non, je trouve que de ce qu'on s'est dit, en tout cas, et toi-même, Marie-Liesse, tu vois, de cette première période que vous avez connue, et de là, de la façon dont vous appréhendez la deuxième période, on sent déjà que, comme disait Marie-Lise, en fait, elle n'est pas inquiète pour votre couple et on sent qu'il y a plus de sérénité, certainement. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je veux conclure, en tout cas, cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous contacter, nous laisser un petit message privé soit sur l'Instagram Savvy Love Date, soit sur l'Instagram Au Cœur du Couple. Vous avez aussi une adresse mail au cœur du couple podcast@gmail.com. Voilà, vous nous mettez quelques mots sur ce que vous vivez. Et puis après, on échange et on voit si vous voulez passer sur le podcast. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que ce podcast, c'est le vôtre, il est pour vous. Et nous, c'est comme ça. C'est ça qui nous plaît et qui nous motive. Donc, n'hésitez pas vraiment. Merci à tous pour votre écoute et on se donne rendez-vous très, très prochainement pour un nouvel épisode d'Au Cœur du Couple. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.